Chapitre 10. Affection paternelle. L'affection paternelle est peut-être la forme la plus aveugle sous laquelle puisse se produire un amour malentendu de sa personne. Car nous n'avons pas, comme les Français, deux termes, amour-propre, amour de soi-même, pour distinguer la poursuite naturelle et raisonnable d'un désir d'avec les calculs insensés de la faiblesse. Les parents aiment souvent leurs enfants de l'amour le moins délicat et sacrifient tous les devoirs à leur avancement dans le monde. Étrange perversité des préjugés sans principe. Ils sacrifient tout à l'avantage à venir des mêmes êtres dont ils empoisonnent l'existence actuelle par les actes les plus tranchants de despotisme. Dans le fait, la fureur de maîtriser est toujours fidèle à son principe vital, car, sous quelque forme qu'elle se montre, elle veut régner arbitrairement et sans souffrir d'examen. Son trône est dressé sur un gouffre dont l'œil n'ose sonder la profondeur, de crainte que cet édifice sans fondement ne s'écroule au moindre effort pour s'assurer de sa solidité. L'obéissance, une obéissance sans condition, tel est le mot convenu des tyrans de toutes sortes, et, pour assurer, s'il est possible, doublement l'assurance, une espèce de despotisme en était une autre. Les tyrans auraient trop à craindre si la raison devenait la règle du devoir dans les rapports de la vie, car la lumière pourrait gagner insensiblement et amener le grand jour, et quand il paraîtrait, comme les hommes riraient à la vue des fantômes qui les auraient effrayés durant la nuit de l'ignorance ou le crépuscule d'une timide recherche. Effectivement, l'affection paternelle n'est dans plusieurs âmes qu'un prétexte pour tyranniser impunément, car les honnêtes gens et les sages n'exigent pas qu'on les respecte sur parole. Convaincus de leurs droits, ils ne redoutent point le jour de la raison, ni l'appel de leurs sujets au tribunal de la justice naturelle, parce qu'ils croient fermement que plus l'esprit humain s'éclairera, plus les principes justes et simples s'y enracineront. Ils ne s'en reposent pas sur des expédients et se gardent bien d'accorder que ce qui est métaphysiquement vrai puisse être faux dans la pratique. Mais, dédaignant l'épreuve, ils attendent en paix que le temps, sanctionnant leurs innovations raisonnables, fasse taire les sifflets de l'envie et de l'égoïsme. Si le pouvoir de réfléchir sur le passé et de porter l'œil perçant de la contemplation dans l'avenir est la grande prérogative de l'espèce humaine, il faut avouer que quelques peuples ne jouissent que très faiblement de ce privilège. Toutes les nouveautés leur paraissent blâmables et hors d'état de distinguer le possible du monstrueux, ils craignent lors même qu'il n'y a rien à craindre et fuient le jour de la raison comme si c'était une torche incendiaire. Cependant, on n'a jamais encore posé les limites du possible jusque à dire « là doit s'arrêter la main hardie du novateur ». Qu'en résulte-t-il ? C'est que la femme, partout et toujours esclave du préjugé, montre rarement une affection maternelle vraiment éclairée. Car ou elle néglige ses enfants, ou elle leur fait du tort par une indulgence mal vue. En outre, la tendresse de quelques femmes est souvent purement animale, comme je l'ai nommé plus haut, car elle étouffe jusqu'à la moindre étincelle d'humanité. Ces femmes sacrifient la justice, la vérité, tout en un mot, et elles violent les devoirs les plus sacrés pour l'intérêt de leurs enfants, oubliant les liens de fraternité qui unissent toute la grande famille sur la terre. Cependant, la raison semble dire que ceux qui souffrent qu'un devoir ou un amour exclut tous les autres n'ont pas un cœur assez grand, une tête assez étendue, pour remplir en conscience même celui-là seul. Il perd alors l'air respectable d'un devoir pour revêtir la forme bizarre d'un caprice. Le soin des enfants dans leur bas âge, étant un des grands devoirs annexés par la nature au caractère des femmes, fournirait, pour peu qu'on l'envisageât sous son vrai jour, de puissantes raisons de fortifier l'intelligence de mon sexe. La formation de l'âme doit commencer de bonne heure, et celle de l'humeur exige en particulier l'attention la plus judicieuse. Attention dont sont incapables les femmes, qui ne chérissent leurs enfants que parce qu'ils leur appartiennent, et se bornent à trouver les motifs de remplir ce devoir dans les sensations du moment. C'est le manque de raison dans leurs affections qui fait si souvent courir les femmes aux extrêmes et les rend ou les plus tendres ou les plus négligentes et les plus dénaturées des mères. Pour être une bonne mère, il faut qu'une femme jouisse de ce bon sens, de cette indépendance de l'âme que possède un si petit nombre de celles qu'on a élevées à dépendre en tout de leur mari. Ces femmes, si douces, si dociles, sont en général des mères insensées. Jalouses de s'assurer l'amour de leurs enfants, elles prennent en secret leur parti contre le père, que l'on présente comme un épouvantail. S'il faut que les enfants soient punis, quoique ce soit la mère qu'ils aient offensé, c'est au père à infliger le châtiment. Il doit être juge dans toutes les contestations. Mais je discuterai quelques jours plus amplement ce sujet en traitant de l'éducation particulière. Tout ce que je prétends pour le moment, c'est qu'à moins que l'intelligence de la femme ne s'agrandisse et que son caractère n'acquiert plus de fermeté, ce qui ne peut être qu'autant qu'on lui permettra de se gouverner elle-même, elle n'aura jamais assez de bon sens ou d'empire sur son humeur pour élever ses enfants d'une manière judicieuse. Dans le fait, son affection maternelle mérite à peine ce nom, tant qu'elle ne la conduit point à nourrir elle-même le fruit de ses entrailles, parce que l'accomplissement de ce devoir est également calculé par l'auteur de toutes choses pour inspirer à la fois l'affection maternelle et filiale. Les deux sexes sont indispensablement obligés de remplir des devoirs qui font naître en eux des affections où ils trouvent le plus sûr préservatif contre le vice. L'affection naturelle, comme on la nomme, ne me paraît qu'un lien très faible. C'est de l'exercice habituel d'une sympathie éprouvée des deux côtés que doivent naître les affections. Et quelle sympathie exerce une mère qui envoie son enfant à une nourrice à gages et ne le retire de son sein mercenaire que pour le faire passer dans une pension. La Providence a bien voulu fournir aux femmes, dans l'exercice des sentiments maternels, un remplacement des sentiments naturels de l'amour quand l'amant ne devient plus qu'un ami et que la confiance réciproque s'établit à la place de l'admiration exagérée. Alors un enfant remonte doucement la corde qui commençait à se relâcher et un nouveau soin mutuel produit une nouvelle sympathie mutuelle. Mais quoique gage d'affection, un enfant ne l'animera pas si le père et la mère s'en remettent de leurs soins sur des gens à gages. Ceux qui font leur devoir par procuration ne doivent pas trouver mauvais de perdre la récompense que la nature attache à son accomplissement personnel. C'est de l'affection paternelle que résultent le respect et l'amour filial. Chapitre 11. Devoir à l'égard des parents. Il semble que l'homme ait, par paresse, du penchant à faire prescrire de vieilles erreurs contre la vérité et à donner à tous les devoirs une base arbitraire. Les droits des rois, on les a fait descendre en droite ligne du roi des rois, ceux des parents de notre premier père. Pourquoi donc fouiller dans l'Antiquité pour des principes qui reposent toujours sur la même base, qui sont aujourd'hui ce qu'ils étaient il y a 1000 ans, et rien de plus. Si les parents remplissent leurs devoirs, ils ont un droit sacré à la reconnaissance de leurs enfants. Mais il est peu de parents qui veuillent obtenir l'affection respectueuse de leurs enfants à de semblables conditions. Ils demandent une obéissance aveugle parce qu'ils ne méritent point une soumission raisonnable. Et pour rendre ces réclamations de la faiblesse et de l'ignorance plus obligatoires, ils entourent le principe le plus arbitraire d'une sainteté mystérieuse. Car comment qualifier autrement le devoir de l'obéissance aveugle à des êtres faibles et vicieux, uniquement parce qu'ils ont obéi eux-mêmes à un instinct irrésistible? On peut donner en peu de mots la simple définition du devoir mutuel qui existe naturellement entre le père et l'enfant. Le père qui soigne l'enfance débile a le droit de réclamer les mêmes services quand la faiblesse de l'âge le ramène à l'enfance. Mais soumettre un être raisonnable à la seule volonté d'un autre, quand le premier est dans un âge à pouvoir répondre à la société de sa propre conduite, c'est l'extension la plus cruelle et la plus illégitime du pouvoir. Et peut-être est-elle aussi immorale que ces systèmes religieux qui veulent que le juste et l'injuste n'aient d'existence que dans la volonté de Dieu. Je n'ai jamais connu de père qui fût méprisé de ses enfants après leur avoir donné des soins plus qu'ordinaires. Au contraire, l'habitude de se reposer presque implicitement sur l'opinion d'un père respecté n'est pas facile à secouer lors même que la maturité de la raison apprend à l'enfant que son père n'est pas ce qu'il y a de plus sage dans le monde. Cette faiblesse, car c'en est une, quoi qu'on puisse lui donner une épithète intéressante, un homme raisonnable doit s'en affranchir. En effet, l'absurde devoir, trop souvent irréfléchi, d'obéir à un père uniquement parce qu'il nous a donné le jour, enchaîne l'esprit et le prépare à se soumettre servilement à tout autre pouvoir que celui de la raison. Je distingue entre le devoir naturel et le devoir accidentel envers les parents. Le père qui a soigneusement tâché de former le cœur et d'étendre l'intelligence de son enfant a donné à l'accomplissement d'un devoir commun à toute l'espèce animale le caractère de dignité que la raison seule peut donner. C'est en cela que consiste l'affection paternelle de l'humanité, bien supérieure à l'affection naturelle de l'instinct. Un tel père acquiert tous les droits de l'amitié la plus sacrée, et son avis, lors même que l'enfant est avancé en âge, demande une sérieuse considération. À l'égard du mariage, quoiqu'après 21 ans, un père semble n'avoir aucun droit de refuser son consentement, cependant, 20 ans de sollicitude demandent du retour, et le fils doit au moins promettre de ne pas se marier de 2 ou 3 ans si l'objet de son choix n'a pas l'entière approbation de son premier ami. Mais le respect pour les parents est, généralement parlant, fondé sur un principe beaucoup plus avilissant. C'est seulement un respect personnel pour la propriété, et si l'on obéit aveuglément à son père, c'est par pure faiblesse ou par des motifs qui dégradent le caractère humain. Une grande partie des malheurs qui parcourent le monde sous des formes hideuses provient de la négligence des parents. Et cependant, ceux-ci tiennent le plus opiniâtrement à ce qu'ils appellent un droit naturel, quoiqu'il soit subversif du droit de l'homme, du droit d'agir, conformément à sa propre raison. J'ai eu très fréquemment l'occasion d'observer que les gens vicieux ou indolents cherchaient toujours à renforcer leurs privilèges arbitraires. Et cette sollicitude est généralement en eux dans la même proportion que la négligence qu'ils apportent à remplir les devoirs qui seuls rendent les privilèges raisonnables. C'est ce que dicte le sens commun, ou cet instinct de sa propre défense, particulier à la faiblesse ignorante, est semblable à celui du poisson qui trouble l'eau dans laquelle il nage pour éluder son ennemi au lieu de l'affronter hardiment dans les ondes limpides. En effet, les partisans des abus fuient la transparence de la raison et se réfugiant dans l'obscurité qui, suivant le langage de la sublime poésie, est supposée environner le trône du Tout-Puissant, ils osent demander pour eux le respect implicite qu'on ne doit qu'à ces voies impénétrables. Mais qu'il me soit permis d'avancer sans présomption que l'obscurité qui nous cache notre Dieu ne touche qu'aux vérités spéculatives, qu'elle n'obscurcit jamais les vérités morales. Celles-ci brillent éminemment, car Dieu est lumière, et jamais, pour la constitution de notre nature, il ne nous impose des devoirs dont il ne fasse rayonner la raison sur nous. Il nous suffit d'ouvrir les yeux pour en être convaincus. Un père indolent de la haute classe peut, il est vrai, extorquer une apparence de respect de la part de son enfant, et les femmes du continent sont particulièrement sacrifiées au vu de leur famille, qui ne songent jamais à consulter l'inclination ni à s'occuper du bonheur de ces pauvres victimes de leur orgueil. La conséquence est notoire. Ces filles soumises deviennent épouses adultères et négligent l'éducation de leurs enfants, dont elles exigent à leur tour la même obéissance. Il est vrai que dans tous les pays, les femmes sont plus immédiatement sous la domination de leurs parents et qu'il est peu de ces mêmes parents qui parlent à leurs enfants de la manière suivante. Quoi qu'il semble que ce soit la voie raisonnable qu'emploie le ciel pour commander à toute la race humaine. Il est de votre intérêt de m'obéir jusqu'à ce que vous puissiez juger par vous-même. Le Père Tout-Puissant de la nature a mis en moi un sentiment d'affection pour veiller sur vous jusqu'à ce que votre raison soit développée. Mais quand votre esprit sera parvenu à sa maturité, vous ne devez m'obéir, ou plutôt respecter mes opinions, qu'autant qu'elles s'accorderont avec la lumière qui éclairera votre propre entendement. Une obéissance servile envers les parents gêne les facultés intellectuelles, et M. Locke observe très judicieusement que si l'âme est trop comprimée, trop abaissée dans les enfants, si l'on tient trop la main à leur conduite, ils perdent toute leur vigueur et toute leur habileté. C'est à cette gêne excessive qu'on peut attribuer à quelques égards la faiblesse des femmes, car les filles, par différentes causes, sont plus gênées par leurs parents, dans toute l'étendue du mot, que les garçons. Le devoir qu'on exige d'elles, comme tous les devoirs imposés arbitrairement aux femmes, tient moins à la raison qu'au sentiment de la propriété et au respect pour le décorum. C'est ainsi qu'en leur apprenant à se soumettre servilement à leurs parents, on les prépare à la servitude conjugale. On me dira que nombre de femmes ne sont point esclaves dans le mariage, j'en conviens. Mais alors elles deviennent tyrans, car ce n'est point une liberté raisonnable, c'est une sorte d'autorité illégitime, semblable à celle qu'exercent les favorites des rois, après l'avoir obtenue par de vils moyens. Je ne prétends pas dire non plus que les garçons et les filles sont toujours esclaves. Je soutiens seulement que, quand ils sont forcés de se soumettre à une autorité aveugle, leurs facultés sont affaiblies, et que leur caractère devient abject ou impérieux. Je suis fâché que les parents, se prévalant indolemment eux-mêmes d'un privilège supposé, retardent les premières lueurs de la raison et rendent par là purement nominal le devoir qu'ils sont si jaloux de renforcer. Car ils ne l'appuient point sur les bases qui, seules, peuvent en assurer leur continuité. En effet, si ce devoir n'est pas fondé sur la connaissance, il ne peut acquérir la force suffisante pour résister à l'ébranlement des passions ou à l'attaque silencieuse de l'amour-propre. Mais ce ne sont pas les parents qui ont donné les preuves les plus certaines de leur affection pour leurs enfants, ou pour parler plus convenablement, qui, en remplissant leurs devoirs, ont laissé prendre racine dans leur cœur à l'affection naturelle de la paternité, à cette affection qui est le produit de l'exercice de la sympathie et de la raison, et non le fruit présomptueux d'un orgueil intéressé. Non, ce ne sont pas ceux-là, dis-je, qui insistent le plus fortement pour que leurs enfants se soumettent à leur volonté, uniquement parce que c'est leur volonté. Non, un père qui donne un bon exemple le laisse opérer patiemment, et il est rare qu'il ne produise pas son effet naturel, le respect filial. On ne saurait apprendre de trop bonne heure aux enfants à se soumettre à la raison. La vraie définition de cette nécessité, sur laquelle Rousseau insiste sans la définir, c'est que se soumettre à la raison, c'est se soumettre à la nature des choses et à Dieu qui les a formées ainsi pour l'amélioration de notre intérêt réel. Pourquoi chercherait-on à plier le caractère des enfants, à mesure qu'ils commencent à se développer, uniquement pour favoriser l'indolence des parents, qui veulent jouir d'un privilège sans remplir les conditions que la nature y attache? J'ai déjà eu l'occasion d'observer qu'un droit renferme toujours un devoir, et je pense qu'on peut également en conclure que celui-là perd le droit qui manque au devoir. Il est plus aisé, sans doute, de commander que de raisonner. Mais il ne s'ensuit pas que les enfants ne puissent comprendre la raison pour laquelle ils doivent faire habituellement certaines choses. C'est de l'adhésion constante à un petit nombre de principes simples de conduite que résulte ce pouvoir salutaire qu'un père judicieux obtient graduellement sur l'esprit de son enfant. Et ce pouvoir se fortifie en effet s'il est tempéré par le même développement d'affection de la part des enfants. Car je crois qu'on doit admettre, comme une règle générale, que l'affection que nous inspirons ressemble toujours à celle que nous cultivons, de manière que les affections naturelles qu'on a supposées presque distinctes de la raison peuvent y être plus étroitement unies qu'on ne le croit communément. On peut observer, comme une autre preuve de la nécessité de cultiver l'intelligence des femmes, que quand les affections résident uniquement dans le cœur, elles semblent tenir en quelque sorte du caprice de l'animalité. C'est l'exercice irrégulier de l'autorité paternelle qui d'abord offense l'esprit, et les filles sont plus exposées à ces irrégularités que les garçons. La volonté de ceux qui ne permettent jamais qu'on les contrarie, à moins qu'il ne leur arrive d'être de bonne humeur, est presque toujours déraisonnable. Pour éluder cette autorité arbitraire, les filles apprennent de très bonne heure des leçons qu'elles mettent ensuite en pratique avec leur mari. Car j'ai souvent vu une petite rusée gouverner toute une famille, excepté dans les cas où quelques nuages accidentels aigrissaient la volonté de la maman, soit que ses cheveux eussent été mal arrangés, soit qu'elle eût perdu au jeu, la nuit précédente, plus d'argent qu'elle ne voulait en avouer à son mari, ou qu'elle eût quelque autre sujet d'humeur. L'observation de ces sortes de saillies m'a conduite à de tristes réflexions sur les femmes. J'en ai conclu que, quand leur première affection est déviée, on met leurs devoirs en opposition jusqu'à ce qu'ils s'appuient sur des fantaisies ou des usages. On doit alors attendre bien peu de choses de leur part à mesure qu'elles avancent dans la vie. Comment, en effet, un éducateur pourrait-il remédier à cet inconvénient? Pour leur apprendre à fonder la vertu sur des principes solides, il faudrait leur apprendre à mépriser leurs parents. Les enfants ne peuvent ni ne doivent être endoctrinés à approuver les fautes de leurs parents, parce que ces complaisances affaiblissent la raison dans leur esprit et les rendent encore plus indulgents pour leurs propres fautes. C'est une des plus sublimes vertus de la maturité que celle qui nous apprend à être sévères envers nous-mêmes et indulgents pour les autres. Mais les enfants ne doivent connaître que les vertus simples, car une indulgence prématurée pour les passions et les usages du monde émousserait en eux le fil du critérium sur lequel ils doivent se régler eux-mêmes, et ils deviendraient injustes dans la même proportion qu'ils deviendraient indulgents. Les affections des enfants et des êtres faibles sont toujours égoïstes. Ils aiment les autres parce que les autres les aiment et non parce qu'ils ont des vertus. Cependant, jusqu'à ce que l'estime et l'amour soient mêlés et confondus dans la première affection, et que la raison serve de base au premier devoir, la moralité trébuchera dès le premier pas. Mais jusqu'à ce que la société soit différemment organisée, je crains bien que les parents ne demandent toujours à être obéis parce qu'ils voudront être obéis et qu'ils ne tâchent constamment de fonder cette prétention sur un droit divin qui impose silence à la raison.